Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall.
Chers amis de présence, nous étions en présence depuis un bon nombre d'épisodes de la Genèse que nous avons commenté. Nous étions en présence des patriarches Abraham, Jacob Isaac et Jacob, et avec Joseph, le fils de Jacob, de tous ces temps derniers. Et maintenant, nous allons nous mettre en présence, nous allons être mis en présence d'un autre grand patriarche, une des plus hautes figures de l'Ancien Testament, qui est Moïse. Nous avons terminé la Genèse, et nous abordons le livre de l'Exode, qui est le deuxième livre de Pentateuque. Il y a cinq livres, cinq rouleaux, littéralement, Pente en grec, ça veut dire cinq, et Teukos, ça veut dire des rouleaux. Pentateuque, vous avez donc la Genèse, l'Exode, les Nombres, le Lévitique et le Deutéronome. Et voilà les cinq livres du Pentateuque. Et là, nous ouvrons le livre de l'Exode, quand le peuple qui est descendu, la famille de Jacob précisément en Égypte, et Joseph est devenu grand vizir d'Égypte, et le peuple va se développer à tel point qu'il va faire peur aux Égyptiens qui vont essayer de diminuer leur prolifération pour qu'ils ne se retournent pas contre les habitants du pays, les Égyptiens. Donc ouvrons ce livre de l'Exode, que l'on reprend pendant le carême, la fin du carême en particulier, et c'est un des passages de la mer Rouge en particulier, et qu'elle a la vigile pascale, c'est ce qui revient constamment. Et ce livre, par rapport à Moïse, commence par un faux départ, un raté, si on peut dire. Avant qu'il ne descende en Égypte, Jacob avait reçu de Dieu la promesse qu'il ferait de lui là-bas une grande nation qui reviendrait d'un jour au pays de ses pères. Depuis le rite d'alliance, Abraham savait déjà la destinée qui attendrait les siens en Égypte. Dieu avait ouvert pour lui quelque chose de l'avenir. « Sache bien, » Genèse au chapitre 15e, c'est déjà, « sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. » Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils auront été asservis, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Genèse, chapitre 15e. Descendu en Égypte, la famille, à l'origine la famille ou le clan, si on pourrait dire, de Jacob, les Israélites furent féconds et se multiplièrent. Ils devinrent de plus en plus nombreux et puissants, au point que le pays en fut rempli. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des Israélites est devenu plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, prenons de sages mesures pour l'empêcher de s'accroître, sinon en cas de guerre, il grossirait le nombre de nos adversaires et combattrait contre nous pour ensuite sortir du pays. » Et donc, d'une part, on les craint parce qu'ils deviennent de plus en plus nombreux, et d'autre part, on ne veut pas qu'ils sortent parce qu'ils sont une main-d'œuvre particulièrement appréciable. On décida, d'une part, d'utiliser la main-d'œuvre hébraïque pour la réalisation de gros travaux, de grands travaux, et d'autre part, de limiter la croissance des Hébreux en supprimant les mâles à la naissance. Esclavage, extermination, et tel était donc le sort dévolu en Égypte à la descendance des patriarches, héritière des promesses. Et les choses se répètent dans l'histoire, dans les continents, dans ce que nous pouvons voir dans l'actualité. Dieu veillait, cependant. Il permit qu'un petit garçon hébreu, d'une beauté exceptionnelle, comme ça nous est dit, fût recueilli sur le Nil, dans le Moïse où on l'avait placé, par la propre fille de Pharaon, Moïse, on l'appelle Moïse, c'est un peu de corbeille, c'est enduite de bitume pour que l'enfant ne se noie pas, mais qu'il soit porté par le Nil. Élevé à la cour, il a cependant connaissance de son origine, ce qui l'amène un jour à s'indigner de la façon dont on traite ses frères hébreux, et à tuer un Égyptien, puis, dans un second temps, à se scandaliser d'une querelle entre deux Israélites. Son peuple, il le voulait libre et uni. Libre, c'est pour ça qu'il tue un Égyptien qui traitait d'esclave un de ses frères, et uni, c'est-à-dire qu'il ne veut pas que les deux Israélites se disputent. Son peuple, donc, le voulait libre et uni, mais sa réaction, pour saine qu'elle soit, reste trop humaine et trop intempestive. Et ses frères ont raison de lui faire observer qu'il n'a reçu aucun mandat pour cette libération et cette unification. Seul le Dieu de leur père peut opérer ces merveilles. Il ne suffit pas de se croire muni des qualités requises pour remplir une mission, tout au moins dans l'ordre divin. Une mission suppose qu'on soit envoyé, et l'on ne s'envoie pas soi-même, quelles que puissent être les bonnes raisons qu'on en ait. Mais on ne s'envoie pas soi-même. L'Épître aux Hébreux déclare au sujet du sacerdoce, « Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur, on y est appelé par Dieu, absolument comme à Aaron, le frère de Moïse. » Et dans l'ordre de la grâce, plus encore que dans celui de la nature, Dieu tient à garder l'initiative. Il sollicite notre libre collaboration tout en se chargeant de nous faire comprendre notre radicale insuffisance. Dieu veut avoir besoin de nous, mais il veut écarter, pour notre bien, la tentation de nous croire indispensables. L'attitude convenable sera donc faite de disponibilité attentive et discrète. Nous pouvons reconnaître en nous de réelles dispositions à telle ou telle vocation, à condition de nous prêter à l'authentification de cet appel, par qui ? De droit.